Et c'est un grand événement. J'ai jamais les fait. Peut-être dans le futur. Je ne sais pas vu, mais oui, peut-être dans le futur. On verra. Mais ça, c'est sûr que c'est un événement assez important qu'on ne peut pas choisir de faire d'un jour à l'autre. On ne peut pas dire la semaine suivante, je vais courir les 20 km de Bruxelles. Je crois que ça ne va pas comme ça. De la même façon, jamais vu personne avec un livre de dire comment courir les 20 km de Bruxelles. Il dit oui, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de m'entraîner pour aller courir et je suis presque fini. Donc ça serait ridicule, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous voyons dans Matthieu 10 le premier entraînement réel des disciples. Jusqu'à un moment, ils ont écouté, ils ont vu ce que Jésus a dit. Ils ont prêté attention et maintenant c'était vraiment le début de l'entraînement. Jusqu'à présent, c'est pour faire un petit parcours, cette prédication, ça suit la série que nous allons faire de Matthieu. Qu'est-ce que Matthieu a raconté? Matthieu est très intéressé à démontrer que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu même. Il a commencé en disant, voici, il est l'héritier, il est sa ascendance. Voici son premier face-à-face avec Satanas dans Matthieu 4. Voici ce qu'il a raconté, le sermon sur la montagne, toutes ses explications, toute sa doctrine. C'était vraiment quelque chose de supérieur. Voici son pouvoir juste après, face à la mort, face à la nature, face à la maladie, même face aux démons. Il avait le pouvoir de chasser les démons. Et juste au moment où il a écrit comment il, lui, pardonnait même des péchés. Et en faisant cela, Matthieu a mis Jésus comme égal à Dieu. Parce que toute personne juive savait très bien que seul Dieu peut pardonner des péchés. Donc, c'est Jésus, c'est Dieu fait homme. Maintenant, ici, après avoir montré à ses disciples comment démarrer l'évangélisation, il envoie 12 personnes pour prêcher les villes. Et nous allons regarder pas tout, parce que vraiment c'est très ambitieux pour le temps qu'il a maintenant, mais il les envoie à prêcher. Si vous regardez en Luc, nous voyons aussi qu'il y a une autre mission un peu plus tard avec environ 70 personnes qui vont un peu plus loin. Et si nous voyons, nous connaissons très bien les passages dans Matthieu 28. Donc, la commission s'est vraiment ouverte et universelle à nous tous. Et voyez-vous les plans de Dieu. Petit à petit, il envoie, c'est lui-même qui prêche, lui-même qui fait face au mal. Après, c'est les 12, après les 70, après nous tous. Donc, ça, c'est les contextes de cette mission aujourd'hui. Il y a 2 semaines, Revi avait prêché dès le texte précédent. Quand il disait, Jésus priait le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. Et quels étaient les messages? Nous allons voir deux parties de ce texte. Jésus dit proclamer les messages d'abord. Proclamer que le royaume des cieux est proche de vous. Et après, nous allons voir comment faire résister. Comment Jésus parle de l'opposition, résister à l'opposition. Et après, nous allons considérer quelques conclusions. D'abord, proclamer que le royaume des cieux est proche. Et ça, c'est les mêmes mots, les mêmes messages qu'il a commencé en prêchant de Matthieu 4. Répondez-vous. Changez l'attitude. Changez votre façon de vivre. Le royaume des cieux est proche. Et ça, c'était vraiment la bonne nouvelle. Ça, c'était le corps de l'évangile que nous devons prêcher. C'est lui qui est juste, c'est lui qui est 3 fois saint, c'est lui qui habite dans la sainteté. C'est approcher d'un monde perdu, d'un monde corrompu, d'un monde qui est tombé sur les péchés. Ça, c'était la bonne nouvelle. Là où il n'y avait pas d'espoir, mais non, il y en a. Et ça, c'est le message que nous devons prêcher. Mais comment presser ce message? C'est une tâche que nous devons, oui, il faut l'obéir parce que vraiment c'est un commandement, mais oui, avec un peu pas d'envie du tout. Et c'est pas comme ça. nous devons prêcher ce message et nous voyons un peu le texte précédent que nous devons prêcher avec de la compassion. La compassion vers l'autre, c'est toujours la motivation pour y aller. Dans Matthieu 9, 36, il écrit que Jésus regarda les foules, il fut rempli, il sentait vraiment la compassion, il sentait les douleurs, il était triste de voir que les gens souffrent, que les gens étaient blessés, et que les gens étaient abattus, que les gens étaient frustrés, il avait de la souffrance. Et cette compassion, c'est vraiment la chose qui a motivé même Dieu venir ici. Et doit être vraiment la motivation de nous tous pour proclamer ce message. Ce n'est pas une tâche vraiment lourde à faire, essayer de faire vite pour partir bientôt sur des autres choses. Mais vraiment, nous devons sentir cette compassion vers l'autre. Ça, c'est la motivation. Cette compassion, comme nous voyons ici, ce n'est pas seulement de parler. Ce n'est pas lire la Bible, donc les échanges. Il avait le commandement d'aller, de guérir, d'accompagner, de soulager, d'aider l'autre. Il a les deux côtés, parler de la Bible et encore aider. Et les douze, ils ont reçu, on a lu à partir du verset 5, mais au début du chapitre, il dit que Jésus donnait l'autorité. Vous savez que cela veut dire l'autorité de Jésus, le pouvoir de Jésus, le même pouvoir pour guérir la maladie, pour chasser des démons. Mais comment ils devront faire usage de ce pouvoir? La compassion vers l'autre, ça c'est les cadres pour utiliser ce pouvoir. C'était dangereux autrement. Le principe, donc, c'est le donner gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement pour cette compassion, pour cette miséricorde. Donc, ça, c'est la motivation pour prêcher, d'abord proclamer que le royaume des cieux est proche, avec de la compassion pour l'autre. Et après, par la suite, il donne quelques instructions. Quelques instructions sont particulières pour ces moments-là, et quelques autres sont vraiment encore valables pour nous. Et nous allons méditer parce que les principes qu'il y a derrière ça, c'est encore valable. Il dit « Allez plutôt vers Israël ». Ça peut-être nous étonner. Qu'est-ce que Jésus faisait de favoritisme? Il y a certaines personnes ou certains peuples dans la terre qui, au ce moment, où il privilégiait plus que les autres. Et c'est non. D'abord, on voit que le peuple d'Israël, bien sûr, c'était l'héritier de la promesse. C'était à eux de recevoir d'abord ces bonnes nouvelles, d'avoir l'opportunité d'accepter la solution au péché. Mais il y a une autre façon aussi de comprendre cela. Et si nous lisons en Luc, nous voyons les parallèles. Il y avait une autre situation où les disciples, ils sont allés, ils traversaient la Samarie, ils cherchaient des logements pour être là. Et personne n'ouvrait ses portes pour être là. Et les disciples, ils avaient reçu le pouvoir. Il a demandé avec un prof de spiritualité, « Jésus, tu veux qu'on prie ?» Il est feu, descend de son, il extermine tout ça. Et Jésus était fâché avec eux. Vous n'avez pas compris vraiment les cadres des pouvoirs. Vous n'avez pas compris de quel esprit vous êtes animé. Je ne suis venu ici pour exterminer les personnes, je suis venu pour racheter des âmes. Et on voit vraiment qu'ils n'étaient pas prêts à prêcher cette bonne nouvelle avec la compassion qu'il fallait. Donc, nous voyons ici, pour nous aussi, une application. Il faut qu'on grandisse en compassion pour être prêt pour prêcher cette bonne nouvelle à toute personne. Ils n'étaient pas prêts. Et Jésus l'a fait exprès pour aller petit à petit. Même c'était difficile pour eux de comprendre. Et nous lisons dans Actes, quelques années plus tard, que vraiment, quand Pierre prêche dans la première maison gentille, l'Esprit Saint descend dans Actes 10, par première fois, dans une famille païenne, il avait du mal. Il était en contre de Pierre. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es avec les païens. Et Pierre a raconté tout. Et après, il dit la Bible que les Juifs, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifient Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens ». Il avait du mal à comprendre cela. Donc, il faut que nous, aujourd'hui, nous prions aussi pour grandir en compassion et en compréhension pour pouvoir arriver vraiment à toutes les personnes qu'il faut. Et la clé pour développer cette compassion, c'est regarder la souffrance de l'autre. Parfois, nous regardons qu'est-ce qu'il fait, comment il agit, qu'ils sont. Mais vraiment, Jésus regardait la foule, mais pas vraiment comme nous pouvons les regarder. Mais il regardait qu'ils étaient blessés et abattus. Et ça, c'est une réalité. Toute personne souffre. Même s'il l'accepte ou il le nie, toute personne souffre. Pour la souffrance naturelle à la vie, pour la souffrance de ne pas comprendre vraiment qu'est-ce que nous faisons ici, quel est le but, qui suis-je. Donc, ça c'est vraiment nécessaire. Dietrich Bonhoeffer, le théologien allemand, il y a quelques années, écrivait aussi les mêmes que nous avons vu en Jésus. Il écrivait « Nous devons apprendre à voir les personnes moins à la lumière de ce qu'ils font ou au maître de fer, mais surtout à la lumière de ce qu'ils souffrent. » Ne pas regarder les autres en termes de ce qu'ils font ou ne font pas, mais comment ils souffrent. Ça nous va aider tellement à grandir en compassion pour bien partager l'Évangile. Il continue Jésus avec quelques autres instructions. Il dit « Ne prenez rien avec vous. » Verset 9 et 10. Allez avec les poches presque vides, seulement avec les chaussures, bien entendu, mais avec pas du tout. Ils devront apprendre aussi en grandir en dépendance à Dieu. Et plus tard, dans Luc 22, quelques années plus tard, Jésus le rappelle. Vous vous rappelez quand je vous ai envoyé là, que vous avez manqué quelque chose? Et ils ont dit non, rien du tout. C'était un entraînement pour reposer dans la dépendance de Dieu. Mais il y avait aussi un autre but, de s'approcher les gens dans le principe de donner et recevoir de façon gratuite. L'Évangile, c'est quelque chose qu'on donne d'une façon gratuite. Donc, c'était aussi pour éviter que les gens, quand ils viennent des personnes inconnues avec un grand sac d'argent, ils disent « ces gens, ils vont quoi ? C'est quoi son business ?» ici, on veut savoir rien de tout. Et Jésus coupe cette doute de qu'est-ce que l'Évangile, c'est un business. Et tristement, il y a des personnes qui convertent cet Évangile, ce partage de la bonne nouvelle dans un business. Et quand les gens sentent qu'il y a un business derrière, ils s'enfuient. Mais c'était vraiment la façon de dire « je ne veux rien ». Je suis venu ici avec les poches vides, je vais partir avec les poches vides. Je vous partage ça pour compassion. Je ne veux rien, je n'obtiens aucun bénéfice. Et ça, c'est très important de tenir en compte. Il dit « allez dans la ville ». Et qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Cherchez la maison la plus importante. Cherchez la maison la plus confortable, parce que vous allez rester quelques jours là-bas quand même. Ou cherchez la maison avec la personne la plus... l'influencer, on dit. Cherchez les réseaux sociaux qui va mieux pour partager l'Évangile. Non. Jésus dit, cherchez quelqu'un de digne. Cherchez quelqu'un de digne. Digne pour recevoir ces nouvelles. Digne afin que sa vie et toute sa famille soit aligné avec la bonne nouvelle, qui ne soit pas un embêtement pour la réputation de l'Évangile. Quel cas de digne. N'importe pas si la maison est inconfortable. N'importe pas s'il y a peu moyen. Vous allez être là pas du tout bien. Ça, c'est pas la question. Il faut chercher quelqu'un de digne. Jésus ne regarde pas les gens comme nous le faisons. Et l'Évangile, et Jésus n'a pas besoin d'aide sociale ou de s'appuyer avec des puissances sociales. Chercher quelqu'un de digne afin qu'il ne soit un pierre pour des chutes pour l'Évangile. Ça, c'est très important, ces principes. Et ne bougez pas de maison en maison. Autrement, ils vont dire, vous êtes ici pour obtenir des bénéfices. Restez là-bas. Restez là-bas tout le temps qu'il faut pour presser la ville. Et quand vous restez là-bas, bien sûr, et vous avez les poches vides, recevez avec tranquillité, avec la conscience tranquille, tout ce qu'ils vont vous offrir. Parce que dans ce contexte de ne pas faire des business, de l'évangile, dans ce contexte, vous devrez manger et vous êtes digne de manger parce que vous êtes en train de faire une grande tâche. C'est dans ce contexte. Mais c'est triste parfois de voir qu'il y a des personnes qui prennent ces versets dehors et ça devient des business dans l'évangile. Ce n'est pas les quatre que je comprends ici dans ce passage. Mais maintenant, proclamer le royaume. Proclamer que le royaume des cieux est proche. Et ils étaient, vous imaginez, comme si vous étiez les disciples, Jésus est carrément montré comme quelqu'un puissant. Ils avaient vu quelqu'un qui avait fait face à Satanas. Il avait montré la puissance, la maladie, et c'était top. Et maintenant, ils vont partir. C'est comme, oui, je me souviens quand j'étais petit, nous jouions à basket dans l'école. Il y avait deux chefs d'équipe dont chacun choisit les joueurs. Et il y avait vraiment un collègue très très haut dans notre classe. Et c'est lui qui choisit là, et il avait gagné les matchs, bien sûr. Donc au moment qu'il avait choisi, il dit, ok, c'est tout fait. C'est tout fait, on va gagner les matchs, même sans transpirer. C'est tout. On fera pas d'effort. Et peut-être, jusqu'à un moment, les disciples ont dit ça. Ils ont pensé, ok, on va faire la tâche, c'est parti, tu viens, peut-être quelques jours, pour samedi, c'est tout déjà fait, après on revient, on continue la fête. Mais donc, ça tourne avec une deuxième partie pas tout à fait agréable. En deuxième mot, Jésus parle de résister à l'opposition. Il commence avec des mots un peu frappants. Méfiez-vous des hommes, parce que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et ça, c'est vraiment pas facile à comprendre. Mais si tu as le pouvoir pour faire toutes choses, et tu nous envoies comme des brebis au milieu des loups, ça, c'est un peu fort. Les brebis, ils n'ont aucune chance, aucune, au milieu des loups. Sauf si le berger est là pour les protéger. Et ça vraiment nous frappe. Et c'est pour ça qu'il continue de dire, soyez prudents et soyez simples. Soyez intelligents, comme des serpents. Et soyez simples, comme des colombes. Nous, moi, la première fois que j'avais lu ce texte, j'ai dit, comme les serpents, mais serpent, c'est lié à la figure du mal. C'est lié à Satanas. C'est l'animal le plus, avec l'astuce, la plus importante de toute la terre. Pourquoi nous devons être comme serpents? Mais si nous allons un peu plus loin, nous voyons que l'intelligence, l'astuce, la prudence, être sage, n'a rien à voir. C'est neutre. N'a rien à voir avec la bonté, n'a rien à voir avec le mal. C'est comme un couteau. Je peux l'utiliser pour couper une pomme et manger et pour tuer quelqu'un. Donc, dans ce sens-là, nous devons être prudents et intelligents pour éviter toutes sortes de mal. Ce n'est pas une mission suicide, tuez-moi. Non, soyez prudents pour éviter. Soyez intelligents pour voir, pour anticiper les mal qui est en train d'arriver. Mais comme l'intelligence, bien sûr, et la serpent dans le Genesis, peut être utilisée pour faire du mal, donc il faut que toujours soit accompagné de la simplicité. Et ça, ce sont les deux côtés de la même pièce. À l'intelligence, la simplicité peut devenir vraiment quelque chose de dangereux, quelque chose de maligne. La simplicité seule peut devenir ingénuité, et ça c'est tout à fait inefficace pour le ministère. Mais il faut être intelligent, prudent, il faut être perspicace, mais avec la simplicité, afin que ça ne devienne pas quelque chose de maligne. Résistez donc l'opposition et soyez prudent, évitez les hommes. Et Paul écrit plus tard, il dit dans 2 Corinthiens, afin de ne laisser pas Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ces desseins. C'est perspicacité pour n'ignorer pas. Que peut se passer? Dans Éphésiens, Paul même, il dit, soyez intelligents pour racheter le temps, pour comprendre la volonté de Dieu. C'est côté de la sagesse, de l'intelligence. Et dans Romains, même l'apôtre Paul encore dit, soyez sages en ce qui concerne les biens, et purs, simples, en ce qui concerne les mal. Donc, résistez à l'opposition dans ce côté de prudence. Et n'ayez pas peur des hommes. Ça, c'est l'autre principe. N'ayez pas peur. Résistez à l'opposition sans avoir aucune crainte pour les hommes. Méfiez des hommes. Les disciples, dit verset 25, n'est pas supérieur à son maître. Ça, il suffit que les disciples soient comme le maître. Et s'ils ont traité Jésus de cette façon, comme s'il était vraiment l'incarnation de Satanas, qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous? Donc ça nous aide un peu à gérer les attentes qu'on a dans cette mission. Il y aura persécution, bien sûr. Ils ont persécuté Jésus même. Ils vont faire le même avec nous. Il y a différents degrés de persécution. D'abord, la légale. Les pays, petit à petit, ils créent des lois qui sont contraires à l'Évangile. Et c'est triste, parfois, Boris partage avec nous les tristes nouvelles de Open Doors avec tous les pays où il est illégal de partager l'Évangile, où il y a des conséquences légales pour cela. Il y a des gens, il y a des frères, les sœurs qu'ils ont amenés au tribunal pour rendre compte de son attitude. Mais la persécution deviendra encore plus violente et plus cruelle. Et ça, c'est vraiment triste d'entendre. Et nous savons pour des nouvelles qu'il y a des frères et sœurs qui ont donné sa vie pour cela. Vous serez détestés à tous à cause de mon nom. Et quand on vous persécutera dans une ville, fuyez à notre. C'est le côté un peu pas triste de cette nouvelle, de cette mission. Peut-être que ce n'est pas la meilleure façon d'encourager quelqu'un. On y va à la mission. Mais Jésus ne cache jamais la réalité. Donc il donne la réalité, il gère nos attentes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à tenir en compte. Et grâce, merci à lui pour parler avec ses clartés. Après ces mots, on pourrait attendre quelques mots de compréhension. Par exemple, que Jésus disait, bon, faites ce que vous pouvez, et il y aura des oppositions jusqu'à la mort. Donnez votre mieux. Oh oui, je comprendais si à tel point vous échouez, parce que personne, oui, ça c'est trop, ça surpasse. Ça c'est trop. Personne n'est prêt pour cela. Mais nous continuons le passage. Et Jésus est très clair et très dur en même temps. Il dit verset 22, « Mais c'est lui qui persévère jusqu'à la fin, c'est à sauver. » On dirait que Jésus n'est pas compréhensif du tout. Hein? Ça, c'est des grands mots, hein? Donner notre vie et résister à l'opposition. Mais encore, plus tard, il change la perspective des choses. Il dit, vous croyez que la mort, c'est le pire, que ça vous peut arriver? Non, ce n'est pas la réalité. Le pire qui peut arriver à quelqu'un, c'est ce qui se passe après la mort. Donc, ne craignez d'homme. Ne craignez celui qui peut tuer le corps. Craignez plutôt celui qui a le pouvoir pour décider le futur de votre âme après. Donc, avec cette perspective, nous prenons un autre contexte des choses. Ça, c'est vraiment encourageant. Mais comment faire? Comment pouvons-nous faire? Comment être sûr? Comment gérer cette opposition? Comment résister cette opposition? Jésus aussi parle de notre réalité. Il dit, souvenez-vous que Dieu est souverain. Résistez à l'opposition. Soyez prudent et simple. Résistez, n'ayez pas peur, parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain dans, au niveau cosmique, au niveau universel, mais aussi dans chaque détail de votre vie. Dans chaque détail de ma vie et de votre vie. Et trois petits exemples de cela. Chaque fois que vous êtes dans le tribunal, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez parler. Parce que l'esprit, à ce moment-là, va vous donner ce qu'il convient. Et vous ne seriez pas là, ça apparaît pas dans ce passage de Matthieu, mais dans le parallèle de Luc, il dit, chaque fois que vous serez là, c'est déjà prévu. Et c'est pour leur témoignage. Donc, soyons-nous tranquilles. S'il arrive quelque chose, Dieu est souverain, même dans chaque détail. Pas seulement au niveau général, mais dans chaque détail. L'Esprit sera là pour vous donner. Je ne sais pas vous, mais sûrement vous avez eu l'impression parfois de dire ce que je viens de partager. En fait, c'était pas moi. Tout du coup, j'ai eu quelques mots pour cette personne ou pour cette situation. Donc ça, c'est une réalité. L'Esprit sera là. Il parle aussi des petits oiseaux qui sont insignifiants. Des deux petits oiseaux que personne ne donne importance. Il dit même Dieu, un oiseau comme cela ne tombe à terre si Dieu ne le permet pas. Ça, c'est une rhétorique, c'est une façon de dire Dieu contrôle, pourrait contrôler. Je ne crois pas, ce sont des réels. Dieu a créé la vie. Dieu a le pouvoir ultime de toutes sortes de vies. Dieu contrôle jusqu'au moment d'une vie insignifiante. Et rien n'est tout aperçu pour lui. Dieu est souverain dans les détails. Et aussi, il y a un autre exemple qu'on ne peut pas vraiment comprendre, même les chevaux de votre tête, ils sont comptés. Ça, c'est vraiment un autre détail, ce n'est pas rhétorique et littéraire, c'est une réalité. Dieu connaît chaque détail de nos vies. Et ça nous donne le soulagement et la tranquillité pour faire face, pour résister à cette opposition. Donc, proclamez les messages, proclamez avec cette compassion qui nous bouge. Et résister l'opposition sans aucune crainte des hommes, mais en étant tranquille dans la souveraineté de Dieu. Deux petites conclusions pour finir. Jésus continue, il dit, le message va causer division. L'opposition peut devenir vraiment très très dure, et même dans les salles de la famille, ça c'est pas dehors, mais dans chaque famille. Je crois que, oui, presque vous tous, vous connaissez cette expérience. Pas peut-être jusqu'au point de nous amener les uns les autres à la mort, mais vraiment, chacun de nous connaît cette souffrance, cette opposition dedans la famille. C'est parce que le message, c'est mauvais, c'est parce que Jésus a la mauvaise intention de diviser la société. Non, il ne faut pas comprendre comme ça. Le message est bon. La bonne nouvelle veut racheter les âmes. Mais c'était à cause de la réaction à ces messages, à cause de la réaction du corps de chacun, qu'une division va être faite. Il dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père céleste. À qui est adressé cet appel? Qui sont aujourd'hui? On avait parlé des disciples à cette époque-là, mais maintenant, qui est? Qui doit faire cette tâche? Il s'agit des pasteurs? Peut-être que vous croyez que c'était une tâche de les anciens? Les personnes qui ont bien étudié un séminaire? Le séminaire biblique ou les stagiaires, c'est à qui de faire cette tâche? Donc c'est à nous tous. C'est à nous tous. Il faut des infirmières qui soient là. Il faut des chauffeurs, des camions qui sont là. Il faut des menuisiers, il faut des techniciens, il faut de toutes sortes, bien sûr. On a vraiment des gens qui ont étudié. Mais c'est à nous tous de déclarer et d'être fidèle, de confesser Jésus. C'est à nous tous. Qui est qualifié ou quel est le requisit, on pourrait dire? Donc, aimer Jésus. Le requisit, ce n'est pas avoir un diplôme de théologie. Félicitations, Robin. Donc, ça, c'est bien sûr, si vous pouvez étudier, ça vous aidera à comprendre mieux les plans de Dieu et sa parole. Ça, c'est vraiment, nous tous, nous devons être encouragés à étudier, en même temps que nous faisons notre vie à la société. Ça, c'est très bien. Mais n'attendez pas à voir, ça, ce n'est pas un requisit. Qui doit prêcher, qui doit déclarer Jésus à la société? Toutes les personnes qui aiment Jésus plus que autres personnes. Ça, c'est le requisit. Ça, c'est le requisit. Ici, Jésus dit, quiconque aime son père et sa mère plus que moi n'est digne de moi. D'après ce que je comprends, ça, c'est un exemple de les deux personnes peut-être qui causent l'influence la plus importante de notre vie. Il dit, Jésus, ne vivez pas d'après les critères de vos parents. Ou d'après les critères de vos amis, par exemple. Ou d'après les critères de quelqu'un qui veut respecter beaucoup. Vivez d'accord à mes critères. Ça, c'est le requisit pour bien déclarer d'une façon fidèle. Et ça, c'est valable aussi pour nous-mêmes. Ne vivez pas d'après votre propre critère. Parce que quiconque essaye de garder sa vie, va la perdre. Il faut vraiment être fidèle. Et laisser à côté les autres, laisser à côté ce que je crois, comment je crois que je dois vivre, et suivre Jésus. Et comment faire cela? N'attendez pas des événements évangélistiques à l'Église. N'attendez pas à les stages de Pâques de 2020. La déclarer et confesser Jésus, ce n'est pas principalement des activités ici dans l'Église. Ça, c'est vraiment nécessaire. Et vous faites bien d'y participer. Mais les principaux, nous confessons chaque jour, là où nous sommes. Les plus difficiles dans notre famille. Les deuxièmes plus difficiles avec notre voisin, dans notre collègue. Ça, c'est vraiment les plus difficiles parce que ces personnes voient notre comportement, voient notre vie chaque jour. C'est plus facile d'aller quelqu'un, lire un passage et partir. Mais c'est un peu plus difficile de prêcher avec celui qui nous connaît. Parce que celui qui nous connaît vont voir, ok, et quelle est votre vie? Comment vous réagir? Quand vous êtes frustré? Quand vous recevez du mal? Vous êtes prêt à pardonner comme vous lisez ici? Ça, c'est le plus difficile. Ça, c'est déclarer Jésus dans notre vie. N'attendez pas à ici. Ça, ce n'est pas le principal. C'est nécessaire. Mais pas le principal. Et peut-être, vous êtes ici d'une façon un peu plus pour entendre et vous voyez tout ce message un peu plus de loin. Vous n'avez pas mis votre confiance en Jésus encore. Et vous croyez que ce message, c'est un peu de la publicité. Et vous, peut-être vous aimeriez, j'aime beaucoup ici en Belgique, il y a les stickers, nos pubs, qu'on peut coller dans la boîte postale et nous ne sommes pas embêtés avec des choses que, oui, nous, on s'en fout. Et vous aimeriez avoir un sticker, nos pubs, laissez-moi tranquille. Si ça va pour vous, pourquoi pas, pourquoi embêter les autres? Mais si vous croyez que ça marche comme ça, vous n'avez pas compris du tout toutes les questions. Ces messages, nous les partageons pour amour à Dieu, pour amour à vous. On n'obtient rien, aucun bénéfice. Ce message, ce n'est pas de la publicité. Ce message, c'est plutôt une situation d'émergence. Je crois que si les réacteurs nucléaires que nous avons ici étaient prêts à éclater, donc les personnes voulaient savoir quand même que la situation, ce n'était pas de la publicité. C'est un avertissement sérieux. Donc, dans ce sens-là, ça, c'était les buts avec lesquels Jésus finit. Les buts, c'est... Dans le verset 40, si quelqu'un vous accule, c'est moi qui accule. Et c'est lui qui m'accule, accule à qui m'a envoyé. Et ça, c'est le but. Le but, c'est d'accueillir à Dieu. Être réconcilié avec lui. La vie va se passer, Et la mort physique, ce n'est pas le pire qui peut arriver. C'est après qui peut arriver le pire. Donc, recevez donc Jésus. Ne ratez pas cette opportunité de ce message. Et vous avez noté, le message n'est jamais imposé. Jamais par la force. Est toujours proposé, mais jamais imposé. Mais soyez vraiment réconciliés avec Dieu. Ça, c'est le message. Que Dieu nous aide à faire cela, à prendre cela en compte, à grandir en compassion, à proclamer le message, à être fidèle. Amen.
Merci, cher Jonathan, de m'en proclamer que le royaume des cieux est proche, rempli de compassion pour les autres qui nous entourent. Et nous pouvons faire ça tous les jours, pas principalement.